Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann,
L'homme au sable.
Traduction Henri Egmont. Chapitre 1. Nathanaël à Lauter.
Sans doute vous êtes tous pleins d'inquiétude de n'avoir point reçu de lettres de ma part depuis si longtemps. Ma mère doit être fâchée, et Clara croit peut-être que je suis ici en goguette, et que je n'ai plus souvenance d'une charmante figure d'ange, dont mon cœur et ma pensée gardent pieusement l'image. Il n'en est rien cependant. Chaque jour et à toute heure, je pense à vous tous, et dans de douces rêveries, la gracieuse figure de mon aimable Clairette passe devant moi et me sourit avec son regard limpide si touchant, comme elle ne manquait pas de le faire quand j'arrivais chez vous. Ah, comment pouvais-je vous écrire, dans la disposition d'esprit déplorable qui jusqu'ici a confondu toutes mes idées. Quelque chose de terrible est venu corrompre ma vie. Les pressentiments confus d'une destinée affreuse me menacent et m'enveloppent comme de sombres nuages impénétrables à tout rayon lumineux. Enfin, il faut que je te confie ce qui m'est arrivé. Maintenant, il le faut. Je le vois bien. Mais rien que d'y penser, il m'échappe un rire involontaire, comme si j'étais devenu fou. Ah, mon bon ami Lauter, comment vais-je m'y prendre pour que tu comprennes que ce qui m'est arrivé récemment a dû réellement jeter dans ma vie un trouble aussi funeste? Si tu étais ici, tu pourrais te convaincre de ce que j'avance, tandis que tu vas sûrement me traiter de visionnaire radoteur.
Bref, l'événement épouvantable en question, et dont je m'efforce en vain d'atténuer l'impression mortelle, consiste uniquement en ce qu'il y a quelques jours, c'était le 20 octobre, à l'heure de midi, un marchand de baromètres entra dans ma chambre pour m'offrir de ses instruments. Je n'achetai rien et le menaçai de le jeter par les escaliers, sur quoi il s'éloigna de son plein gré. Tu prévois bien que certains rapports tout particuliers et essentiels dans ma vie peuvent seuls donner à cette rencontre une signification raisonnable, et que la personne de cet odieux brocanteur doit avoir sur moi quelque influence bien pernicieuse. Il en est ainsi, effectivement. Je vais me recueillir de tout mon pouvoir pour te raconter, avec calme et patience, certains détails de mon enfance, que l'activité de ta pensée saura transformer en tableaux vivants et colorés. Je te vois déjà rire à cette lecture, et j'entends Clara s'écrier « Mais ce sont de vrais enfantillages !» Riez, je vous prie, moquez-vous de moi de tout votre cœur, je vous en conjure instamment. Mais, Dieu du ciel, mes cheveux se dressent d'effroi, et il me semble que cette inspiration de solliciter vos railleries part d'un désespoir insensé, comme les prières que Franz Moor adresse à Daniel.
Mais venons au fait.
Enfant, ma sœur et moi, c'était fort rarement,
hormis l'heure du dîner,
que nous voyions mon père durant la journée. Il devait être fort occupé par ses affaires. Mais après le repas du soir, qui était servi à 7 heures, suivant les vieux usages, nous allions, ainsi que ma mère, avec lui dans son cabinet de travail, et nous prenions tous place autour d'une table ronde. Mon père fumait un grand verre de bière devant lui. Souvent, il nous racontait beaucoup d'histoires merveilleuses, et avec un tel entraînement que sa pipe s'éteignait toujours. Alors j'étais chargée de la rallumer avec du papier enflammé, ce qui m'amusait infiniment. Souvent, aussi, il nous mettait dans les mains des livres d'images, et il restait assis dans son fauteuil, immobile et taciturne, en renvoyant des nuages de fumée qui nous enveloppaient tous comme d'un épais brouillard. Ces soirs-là, notre mère paraissait fort triste. Et à peine l'horloge sonnait-elle 9 heures, « Allons, enfant !» disait-elle. « Au lit, au lit! Voici l'homme au sable. Je l'entends qui vient. » Effectivement, j'entendais toujours alors dans l'escalier un bruit de pas qui semblait monter pesamment et avec lenteur. Ce devait être l'homme au sable. Une fois, ce bruit sourd et étrange, m'ayant causé plus de frayeur qu'à l'ordinaire, Je demandais à ma mère, pendant qu'elle nous emmenait, « Dis donc, maman, quel est donc ce méchant homme au sable qui nous chasse toujours de chez papa? Quel air a-t-il ? » « Il n'y a point d'homme au sable, mon cher enfant, » répondit ma mère. « Quand je dis « voici l'homme au sable », cela veut dire seulement « vous avez sommeil,
vous ne pouvez tenir les yeux ouverts,
comme si l'on vous y avait jeté du sable. » La réponse de ma mère ne me satisfit pas, et dans mon esprit d'enfant s'enracina la conviction que ma mère ne niait l'existence de l'homme au sable que pour nous empêcher d'en avoir peur, car je l'entendais constamment monter l'escalier. Plein de curiosité d'apprendre quelque chose de plus précis sur cet homme au sable et sur ses rapports avec nous autres enfants, je demandais enfin à la vieille femme qui avait soin de ma petite sœur. « Quel homme c'était que l'homme au sable ?»« Ah, Tanel, » répondit celle-ci, « tu ne le sais pas encore ? » ?»« C'est un méchant homme qui vient trouver les enfants quand ils refusent d'aller au lit. » Alors, ils jettent de grosses poignées de sable dans leurs yeux, qui sortent tout sanglants de la tête. Puis ils les enferment dans un sac et les emportent dans la lune pour servir de pâture à ces petits qui sont dans leur nid. Ceux-ci ont, comme les hiboux, des becs crochus avec lesquels ils mangent les yeux aux petits-enfants qui ne sont pas sages. Dès ce moment, l'image du cruel homme au sable se peignit en moi sous un aspect horrible. Quand j'entendais le soir le bruit qu'il faisait en montant, je frissonnais de peur et d'angoisse. Ma mère ne pouvait tirer de moi que ce cri balbutié entre mes sanglots « L'homme au sable ! L'homme au sable !» Là-dessus, je courais me réfugier dans la chambre à coucher et durant toute la nuit, j'étais tourmentée par la terrible apparition de l'homme au sable. J'étais déjà devenu assez grand pour concevoir que le conte de la vieille bonne sur l'homme au sable et son nid d'enfant dans la lune pouvait bien n'être pas tout à fait fondé. Et cependant, l'homme au sable resta pour moi un terrible fantôme. Et j'étais saisi d'effroi, d'une secrète horreur, quand je l'entendais non seulement monter dans l'escalier, mais aussi ouvrir brusquement la porte du cabinet de mon père et la refermer. Quelquefois, il restait plusieurs jours de suite sans venir. Et puis, ses visites se succédaient immédiatement. Ceci dura pendant plusieurs années. Et je ne pus m'accoutumer à l'idée de ce revenant odieux. L'image de ce terrible homme au sable ne pâlissait pas dans mon esprit. Ses relations avec mon père vinrent occuper de plus en plus mon imagination. Quant à questionner mon père à ce sujet, j'étais retenue par une crainte invincible, mais pénétrer le secret par moi-même, voir de mes yeux le mystérieux homme au sable, l'envie bouillonnait dans mon sein et ne fit que s'échauffer avec l'âge. L'homme au sable m'avait entraînée dans la sphère du merveilleux, du fantastique, dont l'idée germe si facilement dans le cerveau des enfants. Rien ne me plaisait davantage que d'entendre ou de lire des histoires effrayantes d'esprits, de sorcières, de nains. Mais au-dessus de tout, dominait toujours l'homme au sable, que je dessinais avec de la craie ou du charbon sur les tables, sur les armoires, sur les murs, partout, sous les figures les plus singulières et les plus horribles. Lorsque j'eus atteint l'âge de 10 ans, ma mère me retira de la chambre des enfants et m'installa dans une petite pièce qui donnait sur un corridor, non loin du cabinet de mon père. Nous étions encore toujours tenus de nous retirer promptement, quand, au coup de 9 heures, l'inconnu se faisait entendre dans la maison. Je reconnaissais de ma petite chambre quand il entrait chez mon père, et bientôt après, il me semblait qu'une vapeur subtile et d'une odeur singulière se répandait dans les appartements. Avec la curiosité, je sentais s'accroître aussi en moi le courage de faire, d'une manière ou d'autre, la connaissance de l'homme au sable. Souvent, je me glissais avec vitesse de ma chambre dans le corridor, après que ma mère s'était éloignée, mais sans rien pouvoir découvrir. Car toujours l'homme au sable était entré lorsque j'atteignais la place où j'aurais pu le voir au passage. Enfin, Cédant à une impulsion irrésistible, je résolus de me cacher dans la chambre même de mon père et d'y attendre l'arrivée de l'homme au sable. Un jour, au silence de mon père et à la tristesse de ma mère, je pressentis que l'homme au sable viendrait. Je prétextai donc une grande lassitude pour quitter la chambre un peu avant 9 heures et je me cachai dans un coin tout près de la porte. Peu après, celle de la maison s'ouvrit en craquant, puis se referma. Un pas lourd, lent et sonore, traversa le vestibule, se dirigeant vers l'escalier. Ma mère passa rapidement avec ma sœur devant moi. J'ouvris tout doucement la porte du cabinet de mon père. Il était assis, comme d'habitude, silencieux et immobile, le dos tourné à la porte, et ne me remarqua pas. Je fus bientôt caché dans une armoire à porte-manteau qui touchait à la porte et fermée par un rideau seulement. Le bruit de la pesante démarche approchait de plus en plus. On entendait au dehors tousser, murmurer et traîner les pieds d'une façon étrange. Mon cœur palpitait de crainte et d'attente. Derrière la porte, un pas retentit. La sonnette est ébranlée violemment, la porte brusquement ouverte. Je m'enhardis, non sans peine, et j'entr'ouvre le rideau avec précaution. L'homme au sable est devant mon père, au milieu de la chambre. La clarté des flambeaux rayonne sur son visage. L'homme au sable, le terrible homme au sable, c'est le vieil avocat Coppelius qui dîne quelquefois chez nous. Mais la figure la plus abominable n'aurait pu me causer une horreur plus profonde que ce même Coppelius. Figure-toi un grand homme à larges épaules, avec une tête difforme de grosseur, un visage d'un jaune terreux, des sourcils gris très épais, sous lesquels brillent 2 yeux de chat, verdâtres et perçants, avec un long nez recourbé sur la lèvre supérieure. Sa bouche de travers se contracte souvent d'un rire sardonique. Alors apparaissent sur les pommettes de ses joues 2 taches d'un rouge foncé, et un sifflement très extraordinaire se fait passage à travers ses dents serrées. Coppelius portait constamment un habit gris de cendre, coupé à l'antique mode. La veste et la culotte, pareil, mais avec cela des bas noirs et des petites boucles à pierreries sur ses souliers. Sa petite perruque lui couvrait à peine le sommet de la tête. Les rouleaux étaient loin d'atteindre à ses grandes oreilles rouges, et une large bourse cousue se détachait de sa nuque, laissant à découvert la boucle d'argent qui assujettissait sa cravate chiffonnée. Toute sa personne, en un mot, était affreuse et repoussante. Mais ce qui nous déplaisait le plus en lui, à nous autres enfants, c'était ses gros poings osseux et velus, au point que nous ne voulions plus de ce qu'il avait touché de ses mains. Il s'en était aperçu. Et ce fut alors une jouissance pour lui, quand notre bonne mère nous mettait à la dérobée sur notre assiette un morceau de gâteau ou quelques fruits confits, d'y porter la main sous quelque prétexte, de sorte que, les larmes aux yeux, nous rebutions de dégoût et d'horreur les friandises qui devaient nous combler d'aise. Il en faisait autant lorsque notre père, au jour de fête, nous avait versé un petit verre de vin sucré. Il passait vite son poing par-dessus, ou même il portait parfois le verre à ses lèvres bleuâtres et riait d'un air vraiment diabolique à voir notre répugnance muette et les sanglots étouffés qui manifestaient notre chagrin. En outre, il ne nous appelait jamais autrement que les petites bêtes. Enfin, il nous était interdit de donner, en sa présence, le moindre signe de vie. Et nous maudissions le vilain et méchant homme qui se complaisait avec calcul à empoisonner le moindre de nos plaisirs. Notre mère paraissait détester autant que nous le hideux Coppelius, car dès qu'il se montrait, sa gaieté, ses manières franches et naïves faisaient place à une gravité triste et sombre. Pour notre père, il se conduisait à son égard comme si c'eût été un être supérieur, dont on dut supporter toutes les impolitesses, et qu'il fallut tâcher, à tout prix, de maintenir en bonne humeur. Aussi, l'autre n'avait qu'à faire un léger signe, et ses plats de prédilection étaient aussitôt apprêtés, et les vins les plus précieux lui étaient servis. À la vue de ce Coppelius, donc, il me vint l'affreuse et effrayante pensée que l'homme au sable n'était nul autre que lui. Mais dans l'homme au sable, je ne voyais plus cet épouvantail du comte de la nourrice attachant aux enfants leurs yeux pour la béquer de son nid de hibou dans la lune. Non, je voyais un méchant esprit de ténèbres qui, partout où il paraît, apporte le malheur, la ruine et le désespoir dans cette vie et pour l'éternité. J'étais complètement ensorcelé. Dans le danger d'être découvert, et comme je le craignais, sévèrement puni, je me tins immobile, la tête en avant, en regardant à travers le rideau. Mon père reçut Coppelius avec cérémonie. « Allons, à l'œuvre !» s'écria celui-ci d'une voix rauque et ronflante, en mettant son habit bas. Mon père, sans rien dire et d'un air soucieux, ôta sa robe de chambre. Et tous deux s'affublèrent de longs et noirs sarraux. Je remarquai d'où ils les avaient tirés. Mon père avait ouvert le battant d'une armoire pratiquée dans la muraille. Mais je vis que ce que j'avais pris si longtemps pour un placard était non pas une armoire, mais plutôt un enfoncement obscur dans lequel on avait pratiqué un petit fourneau. Coppelius s'approcha et une flamme bleue s'éleva en pétillant au-dessus du foyer. Toutes sortes d'ustensiles étranges étaient épars, ça et là. Ah Dieu ! Lorsque mon vieux père se pencha sur ce fourneau, il avait une toute autre expression de figure. Il semblait qu'une douleur horrible et convulsive contractait ses traits doux et honnêtes en l'image repoussante et hideuse du diable. Il ressemblait à Coppelius. Ce dernier brandissait des tenailles ardentes et retirait de l'épaisse vapeur des morceaux d'une matière brillante qu'il martelait ensuite assidûment. Je croyais à tout moment distinguer des visages humains, mais dépourvus d'yeux, à leur place, d'affreuses cavités, noires, profondes. « Des yeux ici, des yeux !» s'écria Coppelius d'une voix sourde et tonnante à la fois. Saisi d'une indicible horreur, je jetai un cri perçant et je tombai de ma cachette sur le plancher. Soudain, Coppelius me saisit. « petite bête » s'écria-t-il en grinçant des dents. Il me souleva et m'étendit sur le fourneau de telle façon que la flamme commençait à me brûler les cheveux. « À présent, nous avons des yeux, une belle paire d'yeux d'enfant !» Ainsi grommelait Coppelius. Et il retirait avec ses mains, du milieu des flammes, des charbons ardents qu'il voulait me jeter sur les yeux. Mon père alors éleva ses mains suppliantes et s'écria « Maître, maître, laisse les yeux de mon Nathanaël, laisse-les lui !» Coppelius se mit à rire d'une manière retentissante et s'écria « Soit, que ce marmot garde ses yeux pour pleurer son pain somme dans ce bas monde. Mais au moins, nous allons à cette heure bien observer le mécanisme des mains et des pieds. » À ces mots, il me saisit si rudement les membres que mes jointures en craquèrent et qu'il me déboîta les pieds et les mains en les tournant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. « Ça n'est cependant pas aussi bien qu'avant. Le vieux l'a compris !» disait Coppelius d'une voix sifflante. Mais tout devint autour de moi vague et obscur. Une convulsion subite agitait mes nerfs et jusqu'à mes os. Et puis, je ne sentis plus rien. Une haleine douce et chaude glissa sur mon visage. Je sortis comme d'une léthargie. Ma mère était penchée sur moi. « L'homme au sable est-il encore là ? » dis-je en bégayant. « Non, mon cher enfant. Il est parti depuis longtemps. Il ne te fera aucun mal. » disait ma mère en embrassant et en caressant son bien-aimé rendu à la vie. Pourquoi te fatiguer, mon bon ami Lothaire, par un long récit de ces détails, quand il me reste encore tant de choses à te dire ? Bref, j'avais été découvert pendant que j'étais aux écoutes et maltraité par Coppelius. La terreur et l'angoisse m'avaient donné une fièvre ardente dont je fus malade pendant plusieurs semaines. « L'homme au sable est-il encore là ? ce fut mon premier mot raisonnable et le signe de ma guérison et de mon salut. Je n'ai plus qu'à te raconter le plus affreux événement de mon jeune âge, et tu seras alors convaincu que ce n'est pas aveuglement de ma part, si tout aujourd'hui me semble décoloré, mais qu'une fatalité mystérieuse a réellement étendu sur ma vie un voile de nuages sombres auquel peut-être il ne me sera permis de me soustraire qu'en mourant. »
Coppelius ne se montra plus.
On disait qu'il avait quitté la ville. Il pouvait s'être écoulé un an lorsqu'un soir, suivant l'ancienne et immuable coutume, nous étions assis en cercle à la table ronde. Mon père était fort gai et nous faisait beaucoup de récits amusants des voyages qu'il avait entrepris dans sa jeunesse. Soudain, au coup de 9 heures, nous entendîmes la porte de la maison crier sur ses gonds, et des pas lents et pesants comme du fer retentirent dans le vestibule puis sur l'escalier. « C'est Coppelius !» dit ma mère en pâlissant. « Oui, c'est Coppelius !» reprit mon père d'une voix sourde et cassée. Les larmes jaillirent des yeux de ma mère. « Mais père, s'écria-t-elle, père, faut-il donc qu'il en soit ainsi ?»« C'est pour la dernière fois, répliqua-t-il, qu'il vient ici. Je te le promets. Va, va-t'en avec les enfants. Allez, allez au lit. Bonne nuit. » Il me semblait que j'avais la poitrine oppressée sous des pierres froides et massives. Ma respiration était suspendue. Ma mère me saisit par le bras en me voyant demeurer immobile. « Viens, Nathanaël, viens donc !» Je me laissai emmener, j'entrai dans la chambre. « Sois tranquille, sois tranquille. Mets-toi au lit. Dors, dors !» me dit ma mère en s'éloignant. Mais, tourmenté d'une frayeur et d'une anxiété indéfinissables, je ne pus fermer l'œil. L'odieux, l'horrible Coppelius était devant moi, avec des yeux étincelants et me souriait d'un air moqueur. Je m'épuisais en vains efforts pour me délivrer de cette vision. Il pouvait être à peu près minuit, lorsque se fit entendre un bruit terrible, pareil à l'explosion d'une arme à feu. Toute la maison en retentit. Quelqu'un passa bruyamment devant ma chambre, et puis la porte extérieure se ferma avec fracas. « C'est Coppelius !» m'écriai-je avec horreur. Et je sautai hors de mon lit. J'entendis des cris déchirants de désespoir. Je m'élançai dans la chambre de mon père. La porte était ouverte. Une fumée étouffante me suffoqua en y entrant. La fille de service criait « Ah, mon maître ! Mon maître !» Devant le foyer fumant, sur le plancher, mon père était étendu, mort, la figure noire, brûlée. Il est très horriblement décomposé. À côté de lui, mes sœurs criaient et se lamentaient. Ma mère était évanouie auprès d'elle. « Coppelius, Satan, scélérat, tu as tué mon père !» m'écriai-je et je perdis l'usage de mes sens. Quand le surlendemain on mit mon père dans le cercueil, l'aspect de son visage était redevenu doux et bon comme de son vivant. Mon âme conçut la pensée consolante que peut-être son commerce avec le réprouvé Coppelius ne l'avait pas précipité dans la damnation éternelle. La détonation avait réveillé les voisins, l'événement devint public, et l'autorité informée voulut faire citer Coppelius comme responsable du fait. Mais il avait disparu de la ville sans laisser de traces. Quand tu sauras, mon bon ami Lothaire, que ce marchand de baromètres était précisément l'infâme Coppelius, tu ne me reprocheras sans doute pas d'interpréter cette fâcheuse rencontre comme le présage de grands malheurs. Il était vêtu différemment, mais l'aspect de ce Coppelius et les moindres traits de son visage sont trop profondément gravés dans mon esprit pour qu'une méprise de ma part soit possible. En outre, Coppelius n'a pas même changé son nom. Il se donne ici, à ce que j'ai appris, pour un mécanicien piémontais et se fait appeler Giuseppe Coppola. Je suis déterminée à lui tenir tête et à venger la mort de mon père, qu'il en résulte ce qu'il voudra.
Ne dis rien à ma mère de l'apparition de l'affreux démon. Salut à ma chère et charmante Clara. Je lui écrirai dans une disposition d'esprit plus calme. Adieu.